Nous sommes évidemment tous d'accord qu'il faut maintenant que les choses changent, mais il faut qu'elles changent non pas dans l'anarchie, mais dans un mouvement puissant, organisé, 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 organisé.
Vous êtes sur Alternante FM, voici Nouvelle Donne, Vieille Rengaine. Auditrice, auditeur d'Alternante FM, je suis heureux de vous retrouver pour Nouvelle Donne, Vieille Rengaine. Au sommaire de ce second numéro, je vous parlerai des inondations, ces catastrophes si peu naturelles qui ont endeuillé l'Hexagone récemment. Je vous parlerai également de la soi-disant violence ouvrière qui a vu une chemise être déchirée et un vigile être victime d'un coma express, le genre de coma dont visiblement on se remet à vitesse grand V. Je vous parlerai ensuite d'un bon livre sur la place occupée dans l'histoire de France par Charles Martel, ce héros bien de chez nous, blanc et catholique, of course. J'ai également exhumé un vieux livre de ma bibliothèque intitulé « L'Algérie, la démocratie, pouvoir et crise du politique dans l'Algérie contemporaine ». Il est l'œuvre de Lawari Addi et il est sorti en 1995, durant la décennie noire. Après la revue de presse, viendra le temps de notre feuilleton radiophonique sur le capitalisme et les luttes sociales. Cette semaine, je vous parlerai des corporations sous l'Ancien Régime, de la religion et du capitalisme, et du mouvement des enclosures dans l'Angleterre de l'époque moderne. J'aimerais dédier cette émission à Mohamed Aklak. Ce quinquagénaire indien est mort à la fin du mois de septembre, lynché par ses voisins, des hindouistes, parce qu'il était soupçonné de manger en cachette de la viande bovine. La vache étant sacrée pour les hindouistes, depuis non pas la nuit des temps, mais depuis l'Antiquité, Mohamed Aklak a donc été tué pour avoir commis un sacrilège. Oh, qu'importe si la viande en question était en fait de la viande de mouton. Le mal était fait et n'a fait que raviver les tensions interconfessionnelles dans ce pays fort de plus d'un milliard d'habitants. Cet homme est mort parce que la connerie humaine, l'extrémisme religieux et l'intolérance n'ont pas de couleur de peau et fleurissent sans effort sous tous les cieux. Les croyants ne sont tolérants que tant qu'ils sont minoritaires. Nouvelle Donne, Vieille Rengaine, l'actualité. Des arbres arrachés, des voitures empilées, des torrents d'eau et de boue dévalant les rues, des personnes mortes, noyées, en essayant de sauver leur véhicule. Les mêmes regards dévastés ou incrédules, le même désespoir qui se lit sur les visages. A-t-on mérité cela? A-t-on mérité d'être de nouveau les victimes de la colère des cieux? Météo France a-t-elle été à la hauteur de sa mission? Serons-nous reconnus en état de catastrophe naturelle? Catastrophe naturelle, le mot est lâché, mais si les pluies torrentielles tombent bien du ciel, les dégâts qu'elles provoquent n'ont rien de naturel. Ces dégâts ont des causes politiques et économiques. Il fut un temps lointain, disons quelques décennies, où le béton n'avait pas envahi totalement l'espace côtier. Quand il tombait dru, et Dieu sait qu'il pleut souvent dru dans le sud-est de la France, l'eau de pluie tombait sur des champs et pas sur du bitume et du béton. Au Maghreb, les orages peuvent être dévastateurs parce que le lit des ouèdes est tellement sec que l'eau peine à y pénétrer. Alors cette eau coule, entraînant tout dans son sillage. Sur la côte méditerranéenne, le phénomène est identique, à la différence que l'ouède est ici une rue. Il fut un temps où les rivières grossies par les pluies diluviennes trouvaient des espaces pour se vider de leur trop-plein. Mais voilà, le béton, les aménagements divers et variés, les digues et barrages, l'absence d'entretien font que ces rivières sont comprimées et y finissent par déborder là où ça leur est enfin possible. Il fut un temps tout aussi lointain, où il était sans doute plus difficile de transformer des terrains non constructibles en bonnes affaires immobilières. En Vendée comme dans le Var et ailleurs, le business est passé par là. Les gens veulent du soleil et la mer à portée de main, parfait, bétonnons la côte. On a transformé de bonnes terres agricoles placées en zone inondable par des quartiers résidentiels. Ce sont 300 000 personnes qui vivent dans une zone inondable pour les seules Alpes-Maritimes. Et en 2009, un rapport du Commissariat général au développement durable notait que ce département détenait le record de construction de logements en zone inondable. Ce ne sont pas les pluies torrentielles qui ont tué, au début du mois d'octobre, une vingtaine de personnes. Pas plus que la malchance ou l'imprudence ou encore notre incroyable dépendance à l'égard de la voiture qui voit nos contemporains risquer leur peau pour sauver leur foutue bagnole. Non, le responsable principal à mes yeux, c'est l'alliance très rarement vertueuse entre élus politiques et bétonneurs en tout genre. Autrement dit, la cupidité, l'appât du gain et l'électoralisme. Le responsable, c'est aussi l'héliotropisme, cette attraction pour le temps clément et la mer, cet idéal de vie petit bourgeois qui pousse une fraction de la population, plutôt âgée, à venir s'installer sur la côte méditerranéenne après une vie de labeur rémunérateur sous le soleil et à l'ombre du Front National. L'attractivité d'un territoire peut se payer de quelques morts à l'occasion. Et les occasions se répètent, malheureusement.
On parle beaucoup des quelques dizaines d'agités.
Nouvelle Donne Vieille Rengaine.
Qui ne travaillent pas.
L'actualité.
Qui empêche les autres de travailler.
L'image a fait le tour du monde libre, provoqué moult commentaires et noirci beaucoup de papiers. Des salariés en colère, rassemblés en meute, ont malmené deux cadres supérieurs en vociférant. On se serait cru à Decazeville en 1886, lorsque des mineurs en colère, rassemblés en meute, avaient malmené le directeur, le dénommé Vatrin. Vatrin n'en avait pas perdu la chemise, mais tout bonnement la vie, puisque les prolétaires avéronnais l'avaient défenestré et lynché. Vatrin accablait d'amendes les mineurs, histoire de rabioter leurs salaires et de gonfler les bénéfices de la compagnie, et les siennes en passant, car toute peine, même la plus dégueulasse, mérite salaire. Vatrin était un affameur, un point c'est tout. Il a suffi que deux cadres supérieurs perdent leur chemise pour que les grands médias, images à l'appui, fustigent la violence ouvrière. Cette violence ouvrière qui, vous l'aurez compris, n'a pas de place dans un monde libre, républicain et démocratique. Rares sont les hommes politiques et les syndicalistes responsables à avoir fait entendre une voix discordante. Non, la violence ouvrière est inacceptable, elle heurte le sentiment démocratique, elle est contre-productive, elle n'est pas bien moralement. Dans les colonnes de Ouest-France, Laurent Berger, le nouveau leader de la CFDT, s'est même dit « saisi par l'indignation » à la vue de ce DRH fuyant le comité central d'entreprise, avant de nous gratifier, bien sûr, d'une énième défense d'un syndicalisme bureaucratique, outil d'encadrement des masses au service de la pacification des rapports sociaux. « On peut vouloir se passer des syndicats », a-t-il écrit, « mais il faut bien comprendre ce que cela implique. Le chacun pour soi est la loi du plus fort dans l'entreprise et davantage de conflictualité. » Avec un syndicalisme pareil, le néolibéralisme a de beaux jours devant lui. La morale. La morale, le monde des affaires a le droit de s'en passer. En revanche, on exige des gueux et exploités qui n'abandonnent pas les bonnes manières. C'est comme ça. Cela m'a remis en mémoire ces mots de Casimir Perier, alors président du Conseil et ministre de l'Intérieur, dans une France de 1831 chahutée par la révolte des canuts lyonnais, ces ouvriers du textile condamnés à la misère par les patrons, et à la mitraille par l'État. Il faut que les ouvriers sachent bien qu'il n'y a de remède pour eux que la patience et la résignation. Principe qui, en 2015, pourrait se formuler ainsi. Il faut que les ouvriers sachent bien qu'il n'y a de remède pour eux que dans le dialogue social responsable. Évidemment, aujourd'hui comme hier, ce n'est pas l'humiliation publique de quelques supplétifs de l'ordre patronal qui changera le destin des travailleurs. Mais pour reprendre ces mots d'Émile Pouget, de l'an de grâce 1892, ça donne de l'espoir aux prolos qui voient qu'on n'est pas tous avachis et ça fout la chiasse aux grosses légumes. Alors évidemment, je doute que les grosses légumes aient eu la chiasse en voyant deux de leurs sbires être chahutés de la sorte. En 1892, la révolution était dans les cœurs. En 2015, on ne sait plus comment s'écrit le mot. Il n'empêche, le seul espoir des travailleurs réside encore et toujours dans leur capacité à gripper la machine productive, à en somme incarner le péril. Comme l'a écrit Georges Sorel en son temps, les ouvriers n'ont pas d'argent, mais ils ont à leur disposition un moyen d'action bien plus efficace. Ils peuvent faire peur. Sorel a raison. Il faut que la peur change de camp, pour que les travailleurs ne se retrouvent pas sans chemise ni pantalon et avec des traites sur le dos.
Hangman, hangman, slack your rope, slack it for a while. Think I see my father coming riding a many a mile. Papa, did you bring me silver? Papa, did you bring me gold? Did you come to see me hanging by the gallows pole? I couldn't bring no silver, didn't bring no gold. I've come to see you hang by the gallows pole. Hangman, hangman, slack your rope, slack it for a while. Think I see my mother coming riding a many a mile. Riding a many a mile. Well, mama, did you bring me silver? Mama, did you bring me gold? Did you come to see me hang by the gallows pole? I didn't bring no silver, didn't bring no gold. I've come to see you hanging by the gallows pole, by the gallows pole, oh God. Hangman, hangman, slack your rope, slack it for a while. Think I see my sweetheart coming riding a many a mile, riding a many a mile, oh God. Riding a many a mile. Honey, did you bring me silver? Honey, did you bring me gold? Did you come to see me hang by the gallows pole? Hanging by the gallows pole. I brought you silver, brought you little gold. Didn't come to see you hanging by the gallows pole, by the gallows pole.
Nouvelle donne, vieille rengaine.
Quando ti ricoverano.
Les notes de lecture.
Porta le armi.
Si la géographie ça sert d'abord à faire la guerre, comme nous l'a conté jadis Yves Lacoste, quid de l'histoire? À l'heure où dans les grands médias et sur les estrades politiciennes, l'histoire se réduit à porter au pinacle quelques héros nationaux, il est heureux que deux historiens, William Blanc et Christophe Naudin, se soient intéressés à l'un d'entre eux, Charles Martel, sans la vaillance duquel, déclara Chateaubriand, nous porterions aujourd'hui le turban. Ni plus, ni moins. Leur livre, publié par Libertalia, s'intitule « Charles Martel et la bataille de Poitiers, de l'histoire au mythe identitaire ». Souvenez-vous, nous sommes en 732 et du côté de Poitiers, notre valeureux Martel repousse une armée de mahométans sanguinaires, sauvant ainsi la France, la chrétienté et la civilisation, comme le fera quelques siècles plus tard la plus célèbre des pucelles, Jeanne d'Arc, avec les Anglois. C'est pourquoi l'extrême droite a fait depuis quelques décennies de ce Charles méconnu et de la bergère de Don Rémy ses têtes de gondole patriotique. Ce contexte ne nous aide pas à parler sereinement de Charles Martel et de la bataille de Poitiers dans sa complexité, ce qui est le vœu des auteurs qui se sont penchés sur la destinée posthume du fils de Pépin le Jeune. Car Charles Martel ne fut pas, loin de là, honoré en tout temps et tout lieu. De même que cette bataille de Poitiers, que certains placent du côté de Tours, n'apparaît guère tout au long des siècles comme un affrontement majeur entre deux civilisations. au 8e siècle de notre ère, la France n'existe pas encore. Sur un espace géographique bien plus vaste que notre pauvre hexagone, l'Empire franc est mis à mal par des rivalités internes, dont celle qui oppose les Gallo-Romains et les Francs qui se détestent cordialement. C'est dans ce contexte qu'intervient la bataille de Poitiers en 732. Là, le franc Charles Martel vient au secours du gallo-romain Eudes d'Aquitaine, son grand ennemi, pour repousser les Sarrasins qui, installés en Espagne, se lancent régulièrement dans des expéditions au-delà des Pyrénées et se sont même installés depuis 719 en Languedoc. En battant les Sarrasins, Charles Martel soumet également à la domination franque le puissant et rebelle duché d'Aquitaine. Et c'est sans doute cela l'essentiel, la mise au pas toujours difficile des marges du royaume franc. Plein de mystères entourent cette bataille. Où s'est-elle véritablement déroulée? Quelle force était réellement en présence? Les Sarrasins voulaient-ils conquérir de nouveaux territoires ou seulement effectuer quelques razzias et s'en retourner à Narbonne, leur fief depuis une décennie? L'ennemi principal de l'Empire franc au Haut Moyen-Âge était-il musulman ou bien plutôt un de ces païens germains du Nord-Est, un viking ou bien un normand? Si l'enjeu était la défense de la chrétienté, pourquoi diable nombre de chefs chrétiens s'allièrent aux Sarrasins pour affronter le royaume franc? Et si Charles Martel fut bien le héros dont certains nous parlent, pourquoi le fut-il si peu pour des générations et générations d'historiens? En fait, la perception que les historiens ou littérateurs ont eue de Martel et de la bataille de Poitiers est une affaire de contexte et de conviction politique. C'est pourquoi certains verront en lui le sauveur de la chrétienté quand d'autres le stigmatiseront comme un potentat brutal et pire, comme un spoliateur des biens d'église, puisqu'il donnait ceux-ci, ces biens d'église, à ses chefs militaires les plus fidèles et dévoués. Certains le traiteront d'usurpateur ayant chassé les Mérovingiens du trône, quand d'autres salueront l'homme d'État énergique, créateur de la féodalité, fondateur de la dynastie carolingienne. À chacun son Martel, en somme. Il n'y eut pas de choc de civilisation du côté de Poitiers en cette année 732, mais un affrontement entre deux armées poursuivant des agendas différents, en affrontant et repoussant les troupes d'Abdelrahman. Charles Martel cherchait avant tout à consolider son pouvoir, à affirmer son autorité sur des contrées rétives à son autorité, comme l'Aquitaine et la Vasconie, et à y installer à leur tête des lieutenants fidèles. Il n'y a guère que la droite la plus réactionnaire et raciste pour voir en cette bataille de Poitiers une date clé de l'histoire de l'humanité, réduite à un affrontement multiséculaire entre une France chrétienne et un islam expansionniste.
Lolo.
En haut à gauche, derrière le bibelot.
Quando ti ricoverano.
Exhumation.
Porta le armi.
J'ai exhumé ce mois-ci de ma bibliothèque et lu dans la foulée un ouvrage du sociologue Lawari Hadi, ouvrage intitulé « L'Algérie et la démocratie, pouvoir et crise du politique dans l'Algérie contemporaine », livre publié en 1995 aux éditions La Découverte. L'Algérie est alors en pleine guerre civile. L'armée, véritable état dans l'état, a interrompu le processus de démocratisation en cours en 1991 pour empêcher que les islamistes ne parviennent au pouvoir, poussant les plus radicaux d'entre eux à se lancer dans la lutte armée. On a beaucoup écrit sur l'armée algérienne, ses services secrets, son art de la manipulation. Certains considèrent même que les groupes islamistes les plus violents qui ont sévi sur le territoire sont ses créatures. Lawari Hadi n'évoque pas cela. En revanche, il s'intéresse à l'histoire du Front de Libération Nationale, le FLN, et notamment à sa tendance la plus militariste, soulignant à quel point celle-ci ne s'est guère embarrassée de sentiments pour accaparer le pouvoir et d'une certaine façon le partager avec les nationalistes les plus religieux. D'idée, le FLN n'en avait pas ou peu, sinon la nécessité d'accéder à l'indépendance, autrement dit au pouvoir, autrement dit à la richesse. La crise sociale qui explose à la fin des années 80 et va provoquer la montée en puissance de l'islam politique atteste de la faillite de l'État FLN, qui a puisé tant qu'il a pu dans la rente pétrolière pour acheter la paix sociale. Tant que l'État FLN eut la capacité de redistribuer de la richesse, il se maintint à flot. Quand il ne l'eut plus, alors tout s'effondra. L'indépendance devait apporter la paix, la justice, la dignité, la prospérité. Elle a enrichi une minorité et fait de l'immensité du peuple des assistés sociaux de moins en moins assistés. Pour Lawari Hadi, la montée en puissance du Front islamique du salut, le FIS, est la conséquence de cette rupture entre le peuple et la nomenclatura. Mais il va plus loin. Pour lui, le peuple algérien a choisi le Front islamique du salut comme porte-voix de sa colère pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il ne voulait pas de la démocratie, ce produit d'importation occidentale qui se traduit concrètement par un abandon par l'État de ses missions redistributrices.
Ensuite, parce qu'il attendait que ce soit les principes moraux, religieux et non le droit qui règlent le fonctionnement de la société. Le citoyen aspire à limiter l'absolutisme des dirigeants et les islamistes proposent de le limiter par la crainte de Dieu. À bien des écarts, nous dit encore l'auteur, le FLN est le père du fils. Toutes deux sont des forces populistes, sans véritable programme, sinon un nationalisme exacerbé, une mystique du peuple uni et que rien ne doit diviser. D'où leur faible appétence pour la démocratie représentative, autrement dit, la reconnaissance de la division en classes antagonistes de la société, le multipartisme et l'alternance politique. L'échec du FLN et la puissance du fils attestent pour l'auteur de l'incapacité de la société algérienne à penser, à imaginer un projet moderne en articulation avec son passé, sa culture et sa religion. Pour Lawariadi, qui considère que l'islam politique est un cri de révolte et une quête de justice sociale, l'interruption du processus électoral par l'armée fut une erreur, car le Front islamique du salut, cet avatar de la modernité, dit-il, se serait désagrégé une fois arrivé au pouvoir, parce que ce qui unit ses militants est une position contre le régime en place et non pour un projet défini. Éternel dilemme, peut-on accepter de confier le pouvoir politique à une force qui ne le conçoit qu'absolue et lui faire confiance pour accepter ultérieurement le verdict des urnes ? On sait ce qu'il advint de l'Algérie dans la seconde moitié des années 90, autrement dit, postérieurement à la sortie de ce livre. L'armée est parvenue à ramener dans son giron l'aile modérée de l'islam politique et fait en sorte que les islamistes se fassent la guerre entre eux. Elle est parvenue également à installer au pouvoir un homme lige, Abdelatif Bouteflika, qui, extrêmement diminué, siège toujours à Alger en 2015. Mais une fois décédé, que se passera-t-il ? L'armée acceptera-t-elle une démocratisation du système qui ne se traduirait pas par, je cite, « le renouvellement de l'élite dirigeante dans un système de pouvoir où elle aurait la prééminence » Ou bien les Algériens sont-ils continués à vivre, toujours, sous la férule des militaires affairistes ? Telle est la question. Si vous allez dans une bibliothèque, essayez donc de mettre la main sur ce livre de Lawariadi, « L'Algérie et la démocratie, pouvoir et crise du politique dans l'Algérie contemporaine », édité par La Découverte en l'an de grâce 1995.
I've been having some hard traveling, I thought you know. I've been having some hard traveling way down the road. I've been having some hard traveling, hard rambling, hard gambling. I've been having some hard traveling, Lord. Riding them fast rattlers, I thought you know. I've been riding them blind passengers way down the road. I've been riding them dead enders, flat wheelers, kicking up cinders. I've been having some hard traveling, Lord. Well, I've been hitting some hard rock mining, I thought you know. I've been leaning on a pressure drill way down the road. I'm a flying air hose sucking 6 feet of mud and a show been mucking and I've been having some hard traveling, Lord. Woo! I've been working at Pittsburgh Steel, I thought you know. Been dumping red hot slag way down the road. I've been blasting, I've been firing, I've been pouring a red hot iron, and I've been having some hard traveling, Lord. I've been laying in a hard rock jail, I thought you know. I've been laying out 90 days away down the road. And the mean old judge has said to me, it's 90 days for vagrancy. And I've been having some hard traveling, Lord. Well, I've been hitting some hard harvesting, I thought you know. North Dakota to Kansas City, way down the road. Cutting that wheat and stacking that hay and trying to make about a dollar a day. And I've been having some hard traveling, Lord. I've been walking that Lincoln Highway, I thought you know. I've been hitching on 66 way down the road. Heavy load in a red mine, looking for a woman that's hard to find. I've been having some hard traveling, Lord.
C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures se rembrouillent. Aïe la vache.
Nouvelle donne, vieille rengaine, la revue de presse.
Pousse-toi. Dans la main, il y a deux voitures, trois, quatre voitures qui sont retournées.
Outre la lecture hebdomadaire de Courrier International, toujours stimulante, je vous conseille la lecture du hors-série numéro 2 des dossiers d'alternatives économiques intitulé « La sociologie en 20 questions ». Ce dossier d'une centaine de pages se fixe comme objectif de faire le point sur les transformations et les contradictions qui traversent les sociétés contemporaines. Il comprend trois parties. Dans la première, intitulée « Le temps long des sociétés », les auteurs s'intéressent par exemple à la division du travail, à la justice et à la mobilité sociale. Dans le second, intitulé « Des institutions bousculées », ils évoquent aussi bien les classes sociales que le système scolaire ou encore le sentiment national. Dans la dernière partie, intitulée « Des comportements en mouvement », ils interrogent le vote, le pouvoir des médias, la consommation et la question des migrations. Et à la fin de chacun des 19 articles, les rédacteurs vous proposent une courte bibliographie, de quoi meubler les longues soirées d'hiver. Courant Alternatif, le mensuel de l'organisation communiste libertaire, n'est plus disponible en kiosque, mais on peut le trouver dans certaines librairies dont, je pense, Vendouest à Nantes. Le mieux étant bien sûr de s'abonner. Le numéro 253 d'octobre consacre sa une aux migrants avec pour titre « Ouvrons toutes les frontières » dans un monde, comme le souligne l'éditorial, où se multiplient les murs et les camps. Outre un long dossier central sur les réfugiés, vous y trouverez un point sur la situation à Notre-Dame-des-Landes, la répression au Pays Basque ou encore la campagne de boycott des produits israéliens, une campagne appelée BDS pour « Boycott, désinvestissement, sanctions ». Dans le numéro d'octobre du Monde diplomatique, Alex Nunes nous offre un long article sur Jeremy Corbyn, le nouvel homme fort du parti travailliste britannique, et l'homme à abattre, à la fois pour la presse, la droite et les blairistes, ce qui fait, avouons-le, beaucoup pour un seul homme. Au sommaire également, des articles sur la Côte d'Ivoire, à la situation politique des plus précaires, sur la Chine en crise, les réfugiés et migrants, et un long article sur le syndicalisme et les conquêtes sociales en Uruguay. Dans les bonnes librairies, en fouillant bien, vous tomberez peut-être sur la revue Z. Cette revue itinérante d'enquête et de critique sociale en est à sa 9e livraison. Avec sa grande qualité rédactionnelle et sa mise en page soignée, Z est un vrai plaisir de lecture de 200 pages pour un prix toujours aussi bas, 13 euros. Et dans ce numéro 9, l'équipe de Z est allée à San Francisco et dans la Silicon Valley, mais également à Toulouse et sur quelques ZAD. Notez enfin que le réseau Échange et Mouvement a publié cet été son 152e numéro avec des articles sur la Grèce, le Portugal, l'Espagne, la situation à Baltimore, la crise du modèle agricole breton. Ce réseau publie également un bulletin gratuit intitulé « Dans le monde, une classe en lutte ». Bonne lecture. Capitalisme, individu et société, feuilleton radiophonique sur l'histoire du mouvement ouvrier. Par corporation, il faut entendre un groupement de marchands et d'artisans exerçant une même activité. Ces corporations apparaissent au XIe siècle, avec le développement urbain, et s'efforcent de contrebalancer le pouvoir de la noblesse et du clergé. Il n'en existe pas partout, et tous les métiers ne sont pas touchés. Il faut donc distinguer les métiers jurés, fondés sur le serment des membres fondateurs, nos corporations, et ce qu'on appelle les métiers libres ou réglés, qui sont soumis à une réglementation externe, seigneuriale ou royale. Ces corporations rédigent des statuts, au sein desquels apparaissent trois catégories de travailleurs, les maîtres, les apprentis et les valets, qui seront appelés ouvriers-compagnons à partir du XVe siècle. Pour devenir maître, il faut faire un chef-d'œuvre, donc prouver son savoir-faire, mais aussi avoir les moyens financiers pour pouvoir s'installer dans une ville. Il faut donc posséder le droit d'exercer une profession industrielle, et ce droit s'achète. Il faut s'engager ensuite à respecter scrupuleusement le règlement de la profession.
Cette réglementation concerne aussi bien la qualité exigée du produit fini que les conditions dans lesquelles le produit en question a été fabriqué. Certains métiers interdisent ainsi le travail de nuit ou celui du dimanche. Et pour vérifier qu'aucun membre de la corporation ne déroge aux règles qu'il a acceptées, la corporation contrôle et rend justice elle-même. Les relations entre maître, apprenti et compagnon sont marquées par le paternalisme. Le maître est le pater familias auquel on obéit. Nous sommes là encore dans la très petite entreprise. Les corporations sont des formes d'organisation communautaire et d'entraide, solidarité, assurance, frais d'obsèques, prières pour les défunts, etc. Une société aussi hiérarchisée qui développe l'esprit de corps, mais aussi les rivalités mesquines entre professions. À partir des 15e et 16e siècles, il devient de plus en plus difficile pour un ouvrier, même brillant, de devenir maître, car la maîtrise a tendance à se transmettre de père en fils. Et les maîtres qui, dans chaque ville, tiennent les corporations, s'efforcent évidemment d'empêcher qu'on leur fasse concurrence. Ils freinent localement le passage au titre de maître de leurs compagnons, et très localistes, ils empêchent l'installation de compagnons ou maîtres extérieurs à la ville. En conséquence, le nombre d'ouvriers compagnons augmente, tandis que certains artisans n'exercent même plus directement leur métier, se contentant de gérer leurs ateliers. De structures de défense d'un métier, les corporations deviennent ainsi des structures de défense conservatrices de l'élite qui les contrôle. C'est pourquoi les ouvriers compagnons et autres apprentis sont régulièrement entrés en conflit avec les maîtres pour des questions de salaire ou de conditions de travail. Les corporations irritent beaucoup de monde. À une époque où le travail manuel est profondément dévalorisé, voir des gens s'unir, défendre des savoir-faire et s'auto-administrer ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas à la noblesse, qui voit dans ces structures des formes de contre-pouvoir à son autorité naturelle. Et puis, certains considèrent que les règlements des corporations freinent le développement économique, car ils interdisent souvent la production sur une plus grande échelle, notamment quand ils limitent la taille des ateliers à quelques ouvriers. Et puis, beaucoup de métiers ne voient pas les innovations techniques d'un bon œil, car ils ne veulent pas que cela entraîne une baisse des prix de vente, évidemment. C'est pour cela que le démarrage industriel se fera en dehors et contre les corporations. Du côté des rois de France, la situation est plus ambiguë. Pendant un temps, comme la noblesse, ils ont pu craindre que les bourgeois ne viennent à remettre en cause leur autorité. Puis ils ont compris qu'ils pouvaient trouver un intérêt à se faire de la bourgeoisie une alliée dans son combat contre une noblesse susceptible de contester son autorité, mais aussi pour assurer la richesse du royaume et la paix sociale. C'est pourquoi les rois vont s'efforcer de prendre le contrôle des corporations en plaçant des officiers royaux à leur tête. Alors, les officiers royaux, ce sont des individus choisis par le roi, ce sont des fonctionnaires, souvent roturiers, c'est pas des nobles, qui peuvent espérer, au bout de quelques années d'exercice, être enfin anoblis. Et puis, les royaumes vont aussi émettre des lettres de maîtrise pour arracher des mains des corporations le pouvoir de s'installer et ainsi favoriser le développement des manufactures royales, qui de ce fait ne sont pas soumises aux réglementations contraignantes des corporations. En 1776, Turgot, qui est contrôleur général des finances sous Louis XVI, présente devant le Parlement, qui rassemble les barons du régime, 6 décrets, dont l'un concerne la suppression des corporations. Écoutons-le. Il sera libre à toute personne, de quelque qualité et condition qu'elle soit, même à tout étranger, encore qu'ils n'eussent point obtenu de nous des lettres de naturalité, d'embrasser et d'exercer dans tout notre royaume, et notamment dans notre bonne ville de Paris, telle espèce de commerce, telle profession d'art et métier, que bon leur semblera, même d'en réunir plusieurs, à l'effet de quoi nous avons éteint et supprimé, éteignons et supprimons tous les corps et communautés de marchands et artisans, ainsi que les maîtrises et jurandes, abrogeons tout privilège, statut et règlement donné aux 10 corps et communautés, pour raison desquelles nul de nos sujets ne pourra être troublé dans l'exercice de son commerce et de sa profession, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être. Le problème est qu'un des 6 décrets est inacceptable pour la noblesse. Turgot voulait remplacer la corvée royale, qui est un impôt en nature dont les nobles et l'église étaient exemptés, par une taxe payable par tous. Eh oui. Le Parlement refuse donc en bloc les décrets de Turgot, ce qui entraîne son renvoi. Les corporations ont donc obtenu un sursis. À l'aube de la Révolution française, les corporations sont donc fortes, mais très menacées. Capitalisme, individu et société, feuilleton radiophonique sur l'histoire du mouvement ouvrier. Le capitalisme n'est pas seulement une façon de produire et de distribuer les richesses, il est également une philosophie.
Nous l'avons vu avec la question des prêts usuraires. L'Église catholique les a longtemps refusés, avant de s'en accommoder dès le Moyen-Âge, du moment qu'ils n'étaient pas prohibitifs. Cela a pu laisser entendre qu'il y avait une sorte d'antinomie entre la foi catholique et le capitalisme, puisque dans les évangiles, on y lit que l'argent corrompt les âmes et que les pauvres pourront s'asseoir à la droite de Dieu. Rien de tel avec le protestantisme. Le sociologue allemand Max Weber considérait que le développement du capitalisme devait davantage à des facteurs éthiques qu'à des facteurs techniques ou économiques. Il parlait d'un esprit du capitalisme. Sur quoi repose cet esprit ? Sur une revalorisation totale du travail. Alors que dans le catholicisme, le travail est une punition divine, dans le protestantisme, il est le moyen pour l'homme de s'accomplir et, par la réussite sociale, prouver ainsi qu'il est un élu de Dieu. Le travail est donc une fin en soi. Le rapport à l'argent est également décomplexé. Si la richesse est le fruit du travail, alors il n'est qu'une juste récompense de l'énergie déployée par le producteur. Cependant, les protestants austères préfèrent l'épargne qui permet de développer son commerce et ses affaires à l'étalage ostentatoire de sa richesse par la consommation de biens. Au XIXe siècle, les protestants français, politiciens ou banquiers, joueront un rôle fondamental dans le développement du capitalisme français, comme François Guizot qui fut plusieurs fois ministre avant 1848. Rappelons qu'à l'époque, seuls les propriétaires étaient électeurs. S'enrichir était le seul moyen de devenir véritablement citoyen. La thèse de Max Weber et son livre « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme » publié en 1905, eh bien cette thèse et ce livre ont marqué leur époque, mais elles n'ont jamais fait l'unanimité. Et en effet, il est aisé de montrer que des terres protestantes et puritaines, comme l'Écosse, ont été beaucoup moins propices à l'esprit d'entreprise que des terres catholiques, comme la Belgique. Pour finir, intéressons-nous très sommairement à la communauté juive, qui, exclue de nombre de métiers, l'agriculture, l'artisanat bien souvent, s'est accomplie dans le commerce, la médecine et la banque. Au XIXe siècle, on va parler de la banque juive, de cosmopolitisme juif. Rappelons également que pour les chrétiens, c'est un juif Judas qui a vendu le Christ pour 30 deniers, autrement dit pour une somme si misérable qu'elle est pour les antisémites un témoignage de l'âpreté au gain des juifs. Au XVIe siècle, William Shakespeare écrit « Le marchand de Venise », dans lequel l'un des rôles principaux est celui de Shylock, un usurier juif qui a fait fortune, pratique des taux d'intérêt exorbitants et se montre sans pitié pour ses débiteurs. Il incarne là la passion morbide de l'argent. Qui dit juif, dit argent. C'est sur la base de ce poncif que l'antisémitisme moderne s'est développé. Antisémitisme schizophrénique, puisque les juifs seront à la fois accusés d'être des capitalistes apatrides contrôlant le monde, Rothschild, mais également des anticapitalistes révolutionnaires comme Karl Marx ou encore Léon Trotsky. Capitalisme, individu et société, feuilleton radiophonique sur l'histoire du mouvement ouvrier. Le capitalisme n'est pas seulement une nouvelle façon de produire et distribuer des marchandises. Son imposition a des conséquences inévitables sur la façon dont les populations vivent, travaillent ou envisagent leur avenir. À ce titre, il est révolutionnaire, bouscule les us et coutumes des uns et des autres. Au XVIe et au XVIIe siècle, c'est le mouvement des enclosures qui va fournir aux fabriques naissantes les bras qu'elles peinent à attirer. Très schématiquement, en Angleterre donc, le mouvement des enclosures vise à clôturer des terres autrefois utiles aux paysans pour y mettre des moutons dont la laine sera utilisée dans les filatures qui émergent ça et là. Des champs jusqu'alors ouverts et des communaux que les petits paysans utilisaient pour faire paître leur maigre bétail sont donc convertis par les grands propriétaires en espaces de pâturage clos. Les petits paysans sont d'une certaine façon expropriés. Cette évolution du foncier se transforme en catastrophe sociale, puisqu'il provoque un fort appauvrissement de la population rurale. L'agriculture anglaise n'a plus besoin d'autant de cultivateurs, elle leur préfère quelques bergers. Les laboureurs? Ils n'ont plus qu'à survivre sur leur lopin de terre, ou bien à quitter l'agriculture pour se faire ouvrier laignier, ou plus souvent, vagabond. Comme l'a écrit un dénommé Lupton en 1622, les enclosures rendent gras les troupeaux et maigres les pauvres gens.
Le mouvement des enclosures, en jetant à la rue une partie des agriculteurs anglais, crée simultanément le premier prolétariat, ou tout au moins les conditions pour que celui-ci émerge. Ce qu'il faut retenir également est la concomitance de ce mouvement avec l'édiction de lois réprimant durement la pauvreté. En 1530, Henri VIII, roi d'Angleterre, promulgue une loi réprimant sévèrement mendicité et vagabondage. Seuls les mendiants trop âgés et de ce fait incapables de subvenir à leurs besoins en travaillant peuvent obtenir une licence leur permettant de faire en toute légalité la charité. En revanche, toute personne de bonne constitution arrêtée en état de vagabondage sera condamnée au fouet et à l'emprisonnement. En cas de récidive, on lui coupe la moitié d'une oreille et si le malheureux persiste à tendre la main, on peut l'exécuter comme ennemi de l'État. En 1547, Édouard VI, fils de son père et nouveau roi, ordonne que tout individu réfractaire au travail soit adjugé comme esclave à la personne qui l'aura dénoncé. Esclavage ? Le terme n'est pas trop fort, puisque son maître peut le marquer au fer, le battre, le vendre et se dispenser de lui verser salaire. En 1572, Élisabeth Ier, fille d'Henri VIII et reine d'Angleterre, décrète que les mendiants dépourvus de licence seront sévèrement fouettés et marqués au fer rouge, à moins qu'une personne n'accepte de les prendre à son service, c'est-à-dire en esclavage, pour une durée de 2 ans au moins. En cas de récidive, le gueux sera exécuté, à moins qu'à nouveau, une bonne âme n'ait besoin d'un serf. Si par malheur, le vagabond incorrigible se remet à tendre la main, il encourt alors la mort. Son successeur et cousin Jacques Ier sera plus clément. Les vagabonds arrêtés seront fouettés en place publique et condamnés à une période de détention de 6 mois et de 2 ans en cas de récidive. Ces lois soulignent à quel point la disciplinarisation du pauvre, exclu ou non du travail, est indispensable au capitalisme. Cette mise au pas, c'est le prix que les dépossédés doivent payer pour trouver la place qu'on leur assigne dans la société. Les mendiants et vagabonds anglais étaient au XVe siècle des petits paysans, des travailleurs indépendants. Les nobles les ont dépossédés de leurs terres. Celles-ci ont été réunies en de grands domaines destinés au pacage des moutons. Et ces paysans sans terre sont devenus ces mendiants et vagabonds que le pouvoir s'est efforcé de contrôler et discipliner afin qu'ils s'intègrent dans la société nouvelle, comme esclaves au sens strict ou comme prolétaires dans les fabriques. Comme l'écrit Karl Marx dans Le Capital au chapitre 26, dans les annales de l'histoire réelle, c'est la conquête, l'asservissement, la rapine à main armée, le règne de la force brutale qui l'a toujours emporté. Dans les manuels béats de l'économie politique, c'est l'idylle au contraire qui a de tout en régné. À leur dire, il n'y eut jamais, l'année courante exceptée, d'autres moyens d'enrichissement que le travail et le droit. En fait, les méthodes de l'accumulation primitive sont tout ce qu'on voudra hormis matière à idylle. Ces affranchis ne deviennent vendeurs d'eux-mêmes qu'après avoir été dépouillés de tous leurs moyens de production et de toutes les garanties d'existence offertes par l'ancien ordre des choses. L'histoire de leur expropriation n'est pas matière à conjecture. Elle est écrite dans les annales de l'humanité en lettres de sang et de feu, indélébiles. Notez que le point de vue développé par l'école marxiste n'a jamais fait, évidemment, l'unanimité. Oh, sans nier le fait que les petits producteurs furent victimes des enclosures, des historiens soulignent que celles-ci ont eu pour conséquence une rationalisation de la pratique agricole, ce qui a entraîné une hausse très importante de la productivité, ce qui s'est traduit par un développement de la population. Et pour ces historiens, la prolétarisation s'est nourrie davantage de cet accroissement de la population que des petits paysans expropriés.
Voilà, c'était Nouvelle Donne Vieille Rengaine, à bientôt sur Alternante FM.